Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le terrible conflit avec Daesh en Irak et en Syrie a obligé des millions de personnes à tout abandonner pour fuir la guerre. Aujourd'hui, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés vivent dans des camps au Kurdistan irakien. Pour les enfants, comme pour les adultes, l'isolement et l'inactivité s'ajoutent au traumatisme de la guerre. Plus que jamais, les enfants ont besoin d'activités de loisirs grâce auxquelles ils peuvent retrouver leur enthousiasme. C'est ce qui conduit l'ONG France Liberté, en partenariat avec la Fédération Léo Lagrange, à lancer une campagne de financement participatif pour ouvrir deux nouveaux camps au Kurdistan qui s'ajoutent aux sept autres déjà administrés. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire. Nous sommes avec Jérémy Chaumette, directeur adjoint de France Liberté en charge des programmes au Kurdistan irakien. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation humanitaire actuellement dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien ?
La situation est difficile, assez fortement. Il faut imaginer le Kurdistan d'Irak, une population de 6 millions d'habitants, et on est quasiment à 1,5 million de personnes déplacées et réfugiées. La grande majorité sont des personnes déplacées, donc des personnes qui arrivent d'Irak vers le Kurdistan d'Irak. On estime à 1,2 million actuellement. Il y a pas mal de gens qui sont revenus, on était à 2 millions il y a quelques temps, et 200-250 000 réfugiés syriens. Il faut savoir que la situation dure, parce que ce sont souvent des gens qui sont là depuis, pour les réfugiés syriens, parfois plus de 5 ans. Pour les déplacés irakiens, c'est 3 ans, ou pour les plus récents, 1 an depuis la bataille de Mossoul.
Dans combien de camps, précisément ?
Là, actuellement, je crois qu'il y a 47 camps au Kurdistan d'Irak. Il faut savoir que pas tout le monde vit dans les camps. Ce sont les plus populations, généralement les plus précaires. Les plus riches, eux, ont pu s'installer dans des maisons dans les grandes villes.
Et ces camps sont gérés par qui ?
Les camps sont gérés à la fois par les Nations Unies, et par le gouvernement kurde, en lien avec des associations kurdes généralement, et internationales. Et un camp, il faut imaginer qu'on a des camps pour 5 000 personnes, comme des camps qui vont jusqu'à 40 000 personnes dans certains camps.
Est-ce que sur le plan politique et sécuritaire, la situation dans ces camps et autour de ces camps est stabilisée ?
Dans la grande majorité, oui. C'est-à-dire qu'on a, plus on s'approche de Mossoul, plus c'est un petit peu compliqué. Ou alors à l'est du Kurdistan d'Irak, puisqu'on a des zones qu'on appelait territoires disputés. Et là, il y avait des milices qui venaient d'approche des camps, mais on va dire en grande majorité, on est plutôt sur une situation stable, assez sécurisée, et avec des moyens qui sont bons, mais qui a diminué actuellement. Et on a parfois des catastrophes. Il y a eu un tremblement de terre assez fort à l'est qui a affecté aussi les camps. Et là, dernièrement, des très grosses pluies, des inondations qui ont affecté notamment, par exemple, des camps d'Yézidi dans le nord-est de la région.
D'où viennent les déplacés et les gens qui sont réfugiés? Surtout, de quelles origines sont-ils? Je veux parler d'ethniques ou religieuses.
Alors, il faut savoir que ce sont des populations très diverses. Donc, on peut avoir des réfugiés syriens. Donc, généralement, ce sont des réfugiés qui arrivent du Kurdistan syrien. Donc, il y a une proximité culturelle avec les habitants du Kurdistan d'Irak, qui sont plutôt souvent des sunnites. Donc, c'est une partie. Mais après, cette population-là reste assez homogène, je dirais. Mais c'est une petite partie des camps. Après, on a tous les déplacés irakiens. Et alors là, on a une très grande diversité. On a les yézidis, qui appartiennent à une religion qui date d'avant les grandes religions monothéistes qu'on connaît, et qui sont perçus comme des adorateurs du diable. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, c'est la communauté qui a été la plus meurtrie. Et eux sont regroupés plutôt dans le nord-ouest du Kurdistan d'Irak. Après, on va avoir des déplacés chiites et des déplacés sunnites qui arrivent d'Irak. Parmi eux, donc ça, c'est leur religion, mais parmi eux, on va avoir des Arabes, des Turkmènes, des Chabaks et d'autres populations. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie mosaïque. Dans la plupart des camps, généralement, les camps sont homogènes. C'est-à-dire qu'on va avoir des camps où on va avoir qu'une seule communauté. Mais on a certains camps. Par exemple, on agit dans un camp qui s'appelle Ashti, où il y a 15 000 personnes. Et là, on va avoir des Turkmènes, des Arabes chiites, des Yézidis et des Chabaks, qui sont un autre. Et donc, malheureusement, les populations, parfois, retranscrivent les difficultés qu'elles ont entre eux. Et donc, toute notre action est de diminuer ces tensions-là, par exemple.
Justement, l'action de France Liberté dans ces camps, quelle est-elle ?
Alors, notre ambition, c'est de travailler avec les enfants, enfin avec les adultes pour travailler avec les enfants. Donc, on forme des animateurs, des gens qui habitent le camp, à mettre en place des activités qu'on appelle résilientes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a des enfants traumatisés, on a des enfants aussi parfois un peu violents entre eux. Comment on va pouvoir, à partir d'activités très simples, des activités éducatives basées sur le jeu, permettre à ces enfants à la fois d'aller mieux individuellement, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer et donc de pouvoir penser à avoir un avenir, et en même temps collectivement de pouvoir s'entendre entre eux. Et c'est-à-dire d'essayer un peu de faire qu'on n'ait pas une génération perdue et que la guerre ne se refasse pas dans 10-15 ans entre ces enfants qui, une fois, seront devenus adultes.
Nous sommes également avec Xenia Koutentaki, responsable du programme éducation au Kurdistan irakien de l'association France Liberté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de retour du Kurdistan. Quelle situation avez-vous trouvée dans ces camps?
I mean, it's a long time. Now, I think it's almost 2 years now.
Cela fait presque 2 ans, je pense, que nous avons commencé ce projet au Kurdistan. Et concernant notre travail, nous avons constaté de gros changements. Non seulement la situation des gens dans le camp évolue, mais notre travail évolue également. Les enfants vont et viennent. La population change en permanence. Nous avons commencé à intervenir dans les camps en novembre 2016. Notre travail consistait à former des gens appartenant à la communauté de ces camps, des réfugiés ou des déplacés, les former à organiser des activités pour les enfants, des activités pédagogiques, mais qui soient différentes de celles proposées à l'école. Alors, quelle était la situation quand nous sommes arrivés? C'était une situation comparable à ce qu'on trouve dans la plupart des camps. Quand on vous dit qu'un camp compte 1,5 million de personnes, on estime que 40% de cette population est en âge d'être scolarisée, sont des enfants. Donc, ça veut dire, quand vous avez un camp de 15 000 personnes, vous vous retrouvez avec 5 ou 6 000 enfants qui ne reçoivent pas une éducation suffisante et à qui on ne propose pas assez d'activités. Donc, en plus du traumatisme auquel ils sont confrontés à cause de la guerre, en plus des difficultés liées aux violences et aux conditions sociales dans lesquelles ils vivent, ils ne reçoivent pas suffisamment d'attention. L'école dure seulement 3 heures et les organisations en charge du camp ne peuvent pas leur offrir d'autres services. Par conséquent, quand nous avons lancé notre projet, nous nous sommes dit « Formons les gens de la communauté pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes des activités avec ces enfants, à côté de l'école, sur les terrains de jeu, dans les centres communautaires, partout. » L'idée était d'offrir des activités qui permettent aux enfants de développer des capacités qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de développer à cause des conditions de guerre, en commençant par le sentiment de dignité et le sentiment d'individualité. Dans leur parcours, le plus souvent, ils n'ont pas été traités comme des individus. Ils font partie soit d'une classe de 70 ou 80 enfants, soit d'une famille de 20 personnes, soit d'une communauté de 50 000 réfugiés, mais rien qui ne leur permette de se sentir considérés en tant qu'enfants, comme des individus. Et ça, c'est une part essentielle de notre travail. Gérer des grands groupes tout en gardant cette capacité de travailler avec chaque enfant, individuellement, pour l'aider à construire sa richesse, à développer les capacités dont il a besoin pour être en meilleure santé.
Est-ce que votre action, justement, que vous décrivez, est-ce qu'elle est bien acceptée par les populations que vous rencontrez, les parents notamment, autour de ces enfants?
Je crois que tous les parents du monde souhaitent le meilleur pour leur enfant, quelle que soit leur situation. Les parents des enfants dans les camps veulent que leurs enfants reçoivent une éducation. Mais ils sont angoissés car il n'y a pas suffisamment d'écoles, pas suffisamment de professeurs, pas suffisamment d'activités pour aider leurs enfants à grandir. Donc, dès que quelqu'un propose de s'occuper de leurs enfants et de leur offrir une forme d'éducation et d'accompagnement, ils accueillent toujours cela à bras ouverts. Il y a parfois des formes de résistance culturelle. Par exemple, dans les activités que nous proposons, nous ne faisons pas de distinction entre garçons et filles, entre musulmans et chrétiens. Nous ne les séparons pas. Parfois, dans les communautés très traditionnelles, certains parents nous font des commentaires par rapport à cela. Mais en général, ils accueillent de façon très positive toutes sortes d'activités éducatives, tous les accompagnements que l'on propose à leurs enfants.
Pas de séparation donc, autant que faire se peut, entre les enfants, quelle que soit leur origine. Les enfants eux-mêmes, comment accueillent-ils cette aide et comment sont-ils dans la vie quotidienne?
Well, the first time we enter the camps, we face situations of big separation and violence, not only between the adults.
La première fois que nous sommes entrés dans le camp, nous avons été confrontés à une situation de forte ségrégation et de grande violence, non seulement entre adultes, mais également entre enfants. Nous nous sommes retrouvés dans des écoles où les enfants avaient formé des bandes rivales qui s'affrontaient régulièrement. Les enfants yazidis étaient parmi les groupes les plus souvent attaqués. Les enfants arabes et les enfants yazidis ne jouaient pas ensemble. Nous avons passé beaucoup de temps au début à essayer de casser ces barrières. Ce que nous avons vu, c'est qu'avec les jeunes enfants, c'est possible. On peut vraiment changer ses comportements. À partir du moment où on réunit les enfants autour d'une activité, ils oublient. Quand on leur propose de jouer ensemble, ils sortent de ces scénarios de violence et de séparation. Les enfants les plus vulnérables sont les adolescents, parce qu'ils ont été témoins de plus de violence et ils ont besoin de plus de soutien. Avec les adolescents, nous devons déployer plus d'efforts et des activités différentes, comme le sport par exemple, ou des cadres qui leur permettent d'exprimer des émotions agressives de façon plus apaisée.
Jérémy Chaumette, est-ce que vous constatez aujourd'hui des retours des réfugiés ou des déplacés vers leur lieu d'origine? Et est-ce que vous accompagnez ce mouvement, notamment avec les enfants?
Alors oui, il y a pas mal de retours. Les retours sont assez nombreux. Ils sont difficiles, puisque les personnes qui rentrent chez elles, elles ont à la fois leurs infrastructures qui sont détruites, mais aussi leur personnalité psychologiquement qui sont atteintes, parce qu'elles ont peur de revenir vers leurs voisins qui sont restés. Donc nous, on fait le travail en amont avec elle au maximum et avec nos animateurs pour que nos animateurs qui repartent, parce qu'eux repartent, deviennent des animateurs, on va dire, qu'ils aident à la vie du quartier, la vie du localement. Après, on n'a pas la possibilité malheureusement de suivre les personnes qui, une fois qu'elles sont revenues sur place, on les suit par distance, mais on ne va pas sur le terrain puisqu'on est sur des zones où on ne peut ne pas nous y rendre.
Vous avez d'autres actions en prévision vers le Kurdistan irakien?
Oui, alors à l'origine, la Fondation France Liberté et la Fondation Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand était considéré comme la mère des Kurdes. Et donc on travaille énormément avec les Kurdes sur le développement de leur politique de jeunesse. Donc comment ils vont permettre aux jeunes de demain de construire leur région, leur pays. Et donc on met en place, on continue à mettre en place des activités de formation, des animateurs et des directeurs de centres de jeunesse avec la Fédération Léo Lagrange et avec les associations kurdes sur place. On les construit ensemble.
Merci Jérémy Chaumette. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de France Liberté en charge des programmes au Kurdistan irakien.
Merci beaucoup.
Et merci à Xenia Koutaintaki, responsable du programme éducation au Kurdistan irakien, toujours pour l'association France Liberté.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les journaux panarabes évoquent une entente israélo-russe pour limiter la présence iranienne au sud de la Syrie.
Oui, et en vertu de cette entente, selon les journaux, les forces iraniennes seront retirées du sud de la Syrie et Israël aura le droit d'intervenir militairement contre tout danger, à l'exception des positions du régime de Damas. Une entente qui, pour plusieurs commentateurs, est une preuve de la mise sous tutelle de facto du président Bachar el-Assad de la part de Moscou. Un président qui est aussi à la merci de l'Iran et de ses milices qui comptent s'installer durablement en Syrie. Un éditorialiste écrit sarcastiquement « Il fut un temps où les forces syriennes de Bachar el-Assad occupaient le Liban et aujourd'hui est venu le temps où les forces libanaises, les milices du Hezbollah, occupent la Syrie. »
Michel Paul, en Israël, on pointe le retour au calme régional.
Oui Eric, c'est le titre qui résume la situation en cette fin de semaine. L'objectif, un règlement sur les deux fronts, la Syrie et Gaza. Dans Israël Hayom, un officier supérieur israélien le proclame. Israël et Gaza sont proches d'un nouveau conflit armé. En fait, la situation est la plus explosive de ces quatre dernières années. Mais dans le même temps, si les responsables du Hamas le désirent, eh bien une solution est également en vue pour stabiliser la situation. Retour au calme, écrit un éditorialiste de Mariv, oui, mais seulement jusqu'au prochain tour. Et dans Haaretz, on estime également que la situation est propice à un arrangement de longue durée, car le Hamas est prêt à parler de tout, cette fois. Plusieurs commentateurs de droite estiment, tout comme les politiciens du même bord, qu'Israël a tout simplement capitulé et n'a pas réussi, en tout cas, à marquer des points face aux attaques du Hamas. À retenir également dans Haaretz la chronique de Gideon Levy. Gideon Levy, c'est ce journaliste qui irrite les Israéliens par ses prises de position. « Ils ont raison, écrit-il. Ils, ce sont les responsables de la bande de Gaza. Ils n'ont pas d'autre choix que de lutter avec leur corps, leur sang, leurs biens et leurs armes pour leur liberté. »
Michel, à la frontière nord aussi, une solution serait en vue.
Les Iraniens s'en vont, ils quittent le sud de la Syrie, titre les quotidiens de fin de semaine en Israël. Les milices et le Hezbollah se préparent à abandonner le secteur. Un commentateur parle de la rupture entre Moscou et Téhéran, mais il ajoute qu'elle doit être accompagnée de prudence. L'espoir, écrit-il, est cependant permis. Ne nous réjouissons pas trop vite, estime un chroniqueur. La tension à la frontière nord d'Israël reste encore forte, souligne l'ensemble des journaux. Israël indique, la presse israélienne tente de finaliser un accord avec la Russie sur la Syrie, mais selon les articles, d'autres pays sont également impliqués dans ces négociations, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et aussi la Jordanie.
Alexandre, l'escalade des combats dans la ville libyenne de Derna et la médiation française font l'objet de nombreux commentaires.
Oui, Derna, cette ville de l'Est libyen, est pratiquement assiégée par les forces armées nationales du général Khalifa Haftar, un général qui cherche à en déloger les milices islamistes de Majlis al-Shura de Derna, considérées par lui comme terroristes. Alors des combats qui, selon certains journaux, impliqueraient des bombardements effectués par l'aviation égyptienne. Une illustration de l'échec de la médiation française sur le terrain et qui finalement n'aura permis de réaliser qu'une photo souvenir sur laquelle les frères ennemis de Libye ont momentanément laissé leurs armes au vestiaire, estime Al-Quds Al-Arabi. Pour le journal qui est proche du Qatar, la crise libyenne ne sera résolue qu'avec la disparition du général Haftar, soutenu par l'Égypte et les Émirats, ainsi que les services de renseignements américains. Un général qui n'acceptera qu'un seul accord, celui qui fera de lui le chef de l'État libyen.
Notons également, Alexandre, l'abandon de sa version papier par le journal panarabe Al-Ayat à Londres, au Caire et à Beyrouth.
Oui, un abandon qui a eu lieu ce jeudi pour des raisons économiques, puisque les recettes publicitaires ne couvraient même plus le prix du papier sur lequel le journal était imprimé. Par ailleurs, les rédactions, dont certaines étaient délocalisées, seront regroupées à Dubaï avec évidemment des licenciements. Le journal Al-Haya, qui était un des derniers de la demi-douzaine de journaux panarabes qui continuait à imprimer une version papier dans une ville arabe, le journal indique à ses lecteurs qu'ils pourront continuer à le consulter sur Internet en version PDF.
Pour conclure, Michel Paul, votre image de la semaine.
Bien, c'est la photo de Tamir Pardo, ancien chef du Mossad. La presse réagit à ces révélations. Netanyahou lui avait ordonné de préparer une attaque des installations nucléaires de l'Iran. Il avait mis en doute le bien fondé légal de cet ordre. Du coup, Bibi voulait le mettre sur table d'écoute.
Merci Michel, merci Alexandre. Mathias Golshani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Demain dimanche, nous entendrons le journaliste israélien Mati Ben Avraham nous parler de 12 témoins essentiels de l'évolution de l'État d'Israël depuis sa création en 1948, du général en retraite Amos Orev, 94 ans, au professeur Yitzhak Ben Israël, qui représente à lui seul la nation start-up. À demain, même heure, tout de suite le journal.